Commentaire de Romains 3, 1 à 4. Qu'est donc le surabondant du judaïen ou qu'est le profit de la circoncision? Alors pour ça, je vais commencer à parler de la fin du chapitre 2, résumer un peu ce qui a été dit. Donc ce qui a été dit, grosso modo, c'est qu'un judaïen, c'est quelqu'un de circoncis de cœur, et que quelqu'un de circoncis de cœur, c'est quelqu'un qui garde la Torah. Plus précisément, pour reprendre les termes exacts, c'est quelqu'un, là dans le contexte du chapitre notamment un gentil, qui garde les actes de justification de la loi. Voilà, qui les gardienne, plus précisément. Donc voilà. Donc quelqu'un qui gardienne ces choses-là, quelqu'un qui garde la Torah, c'est quelqu'un qui est circoncis de cœur. Ok, grosso modo. Et quelqu'un qui est circoncis de cœur, c'est grosso modo, c'est de ce qu'on peut interpréter et comprendre. Ce que veut dire Paul dans ce texte, comme signifiant que c'est le judaïen caché, c'est-à-dire le judaïen, le vrai judaïen, par opposition au judaïen qui est dans le paraître, dans une forme de lumière, même si c'est pas vraiment l'expression, il est dans la lumière, ça c'est vraiment la fame, la célébrité, mais là, dans le contexte, c'est pas vraiment ce dont on parle, n'est-ce pas? Donc il y a, voilà, par opposition à celui qui n'aurait que l'apparence ou qui ne l'aurait que de titre ou que dans la bouche, grosso modo. Et du coup, là-dessus, Paul dit qu'est donc le surabondant du judaïen? Ça veut dire quoi, finalement? Ça signifie quel est le surabondant de cette étiquette, hein, si je puis dire, de ce titre que l'on donne à certaines personnes, d'accord? Qui sont dites comme étant judaïens. Eh bien, le surabondant, c'est-à-dire l'avantage qui ressort, qui abonde, n'est-ce pas, de ce titre, bah, c'est tout simplement le fait que, grâce à ça, on arrive à repérer, à identifier, à parler des gens qui gardent la Torah. Et ça, c'est pratique dans les relations sociales, d'accord? De pouvoir facilement, rapidement identifier les gens. Donc ça, c'est un avantage du terme judaïen, de l'étiquette, du titre judaïen. Voilà. À partir de ça, on peut tout simplement dire, lui c'est un judaïen, lui c'est pas un judaïen, etc. Sur la base de quoi? Sur la base de ses œuvres, de ses fruits, de est-ce qu'elle garde la Torah ou pas. Donc ça, c'est un côté pratique. Voilà. Ensuite, il dit, qu'est le profit de la circoncision? Alors, c'est une question effectivement qu'on peut se poser dans la mesure où ce commandement-là est un commandement qui est fait une seule fois dans la vie, pour ce qui relève de la chair. Et du coup, une fois que c'est fait, on peut se dire, à quoi ça me sert maintenant? La réponse est semblable à la première question. C'est-à-dire que la circoncision, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la Torah. N'est-ce pas? Il dit, HM Paul, si je puis dire, enfin, HM par Paul, n'est-ce pas? Dans l'Épître aux Galates, que tout être humain circoncis est débiteur de faire la loi tout entière. Donc, à la circoncision, en tout cas à l'époque de Paul, est intrinsèquement, si je puis dire, liée la pratique de la Torah. Et la circoncision elle-même est une pratique de la Torah. Donc, le fait de circoncire son fils à l'époque de Paul, c'est le fait finalement de mettre en pratique la Torah. Et le fait de mettre en pratique la Torah, c'est un témoignage de ce que la personne a cru dans la Torah. Et donc finalement, la circoncision, c'est le témoignage d'une certaine foi, en fait, d'une confiance que quelqu'un concerné par la circoncision, concerné par la Torah, a mis dans la Torah. Donc, la circoncision, c'est un sceau par rapport à ça. C'est un témoignage, un peu comme le baptême. Et ça, c'est un avantage aussi. Un avantage semblable à l'avantage du titre de judaïen. Ça permet d'attester le fait que, voilà, tu vois, moi je suis circoncis, ça signifie que je viens d'un père qui est judaïen, c'est-à-dire que mon père a mis foi en Hachem, etc. Donc ça a cet avantage-là aussi d'identifier ceux, par exemple, qui font partie, on va dire, d'une certaine manière, du peuple d'Israël. Alors là, c'est selon la chair, par exemple. Et ça peut aussi être, être un sceau pour les convertis. D'accord? Ceux qui se circoncident en étant adultes. Ça permet de montrer aux autres qu'on a vraiment foi en HM. Parce que c'est pas rien la circoncision, se couper un bout du sexe. C'est quand même un acte fort qui peut demander de la bravoure, du temps, de la réflexion, du courage, etc. Donc n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui peut être peut-être considéré comme difficile par certains. Et c'est un acte qui, pour les convertis, témoigne de leur sincérité, si je puis dire. Enfin bon, bien que la sincérité soit toujours quelque chose qui soit pas forcément évident à détecter, en tout cas avec une certaine assurance. Mais en tout cas, c'est un témoignage de ce que la personne apparemment a cru dans la parole d'Hachem. Donc ces deux choses-là, la circoncision et le titre de Judaïen, ça nous renseigne sur la personne, ça nous permet d'identifier les gens. Et ça, c'est très pratique pour ce qui concerne en fait tout ce qui va être social, les relations sociales. Voilà, je dirais que c'est la base en fait hein, de la religion, pouvoir dire lui c'est un croyant, lui c'est pas un croyant, lui c'est mon frère, lui c'est pas mon frère, etc. Parce que sinon on est seul et il n'y a plus de religaré, de relation, n'est-ce pas, de lien. Donc il n'y a plus vraiment de religion. En tout cas, étymologiquement parlant, n'est-ce pas? Donc je continue. Nombreuses choses selon toute manière, en réponse du coup à ces deux questions-là. Car premièrement, certes, en ce que furent crus les logions de le Dieu. Voilà, donc ces deux choses-là, le titre de judéen et la circoncision, c'est un profit en ce que c'est un témoignage de ce que les logions de Dieu ont été crus. Un témoignage pour ceux qui sont concernés par ces choses-là. Voilà, donc comme j'ai pu le dire justement, c'est avantageux. Ensuite, il dit quoi? Il dit, car quoi, si quelques-uns ne croient pas, leur incroyance ne rendra-t-elle pas complètement son travail, la croyance de le Dieu? Parce qu'effectivement, certaines personnes pourraient dire, mais attends, mais lui, on me dit que c'est un judaïen, mais jamais je l'ai vu garder la Torah. Jamais j'ai vu faire un Shabbat, jamais je l'ai vu lire les Écritures. Jamais je l'ai vu entendu parler d'Hachem, etc. Alors finalement, à quoi ça sert ce titre de judaïen si tout le monde peut l'avoir, grosso modo? Si même des gens qui gardent pas la Torah peuvent l'avoir, à quoi ça sert finalement? Donc ce car quoi, c'est un peu ça. Ça répond un peu à cette parole, n'est-ce pas? Car il dit juste après, si quelques-uns ne crurent pas. Et c'est intéressant de relever qu'il ne dit pas si quelques-uns des Judéens ne crurent pas, mais il dit si quelques-uns ne crurent pas. Alors, dans le contexte, on peut penser que ces quelques-uns, il s'agit de Judéens. Mais là, Paul, même s'il peut vouloir le dire, il ne le dit pas. Parce que dans ce qu'il a pu dire juste avant, il nous fait comprendre que le judaïen, c'est celui qui garde la Torah. C'est pas celui qui ne la garde pas, grosso modo. Donc il ne dit pas si quelques-uns des judaïens. Mais nous, on pourrait le comprendre comme ça. Mais il dit, si quelques-uns ne croient pas, donc selon le contexte, on pense à qui notamment? On pense aux judaïens de nom, c'est-à-dire de titre, c'est-à-dire ceux qui ne sont judaïens que dans leur bouche ou que dans la bouche de certaines autres personnes. C'est-à-dire c'est des gens dont on dit ou qui disent eux-mêmes qu'ils sont judaïens mais qui ne gardent pas la Torah. Et qui donc, selon ce que Paul a pu dire juste avant, n'est-ce pas, ne sont pas judaïens, n'est-ce pas? Donc ces gens-là, est-ce que leur incroyance rendra complètement son travail la croyance de le Dieu? Alors, concernant l'expression la croyance de le Dieu, on peut aller au verset 22 qui dit quoi? Qui parle de croyance dans le fils d'Hachem. Enfin, pardon, qui parle de croyance du fils d'Hachem. Et dans le contexte, on peut comprendre ça comme signifiant la croyance dans le fils d'Hachem, en le fils d'Hachem. Là-dessus, on peut interpréter cette expression de la croyance de le Dieu comme signifiant la croyance en Hachem. On pourrait éventuellement traduire ça par la croyance à Hachem. Comme certains disent, la voiture à ma mère. D'accord? Qui appartient à ma mère, au lieu de dire la voiture de ma mère. Là, on pourrait éventuellement voir la chose comme ça, la croyance à Hachem, qui appartient à Hachem, qui est scellée, qui est signée par Hachem, grosso modo, qui est propre à Hachem, c'est-à-dire la croyance reliée en Hachem, finalement, n'est-ce pas? Donc il dit, leur incroyance, à ces judaïens de nom, ne rendra-t-elle pas complètement son travail, et la croyance, pour simplifier, en Hachem, ne rendra-t-elle pas complètement son travail, c'est-à-dire ne rendra-t-elle pas vain la foi en Hachem, grosso modo? Donc, finalement, la question, c'est quoi? C'est, est-ce que le fait qu'il y ait des Judéens que de nom, ça fasse que la foi en Hachem devienne vaine? Et Paul dit, puisse-t-il ne pas se devenir? D'accord? Alors, maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu plus ce verset 3. Donc, l'idée de cette personne, on va dire X, qui a pu penser que du fait qu'il y aurait des Judaïens que de nom, c'est-à-dire des Judaïens qui seraient des fous Judaïens qui n'auraient pas foi en Hachem, alors la foi en Hachem serait quelque chose de vain. Donc, cette personne X-là, comment elle penserait cela? Elle penserait que finalement, enfin, pourquoi elle penserait ça? Eh bien, c'est car si on appelle Judaïens des gens qui ne gardent pas la Torah, alors finalement, le titre de Judaïen devient vain. Et pareillement, la circoncision, n'est-ce pas? Puisque ces Judaïens-là auraient été circoncis par leur père, par exemple, et du coup, ils rendraient vaine la circoncision, n'est-ce pas? Ou alors, ils ne seraient même pas circoncis, ce qui serait étrange, mais auraient le titre de Judaïen. Ce qui serait contradictoire et avec la circoncision et le terme Judaïen, n'est-ce pas? Et du coup, la personne pourrait dire, pourrait dire que finalement, si la circoncision et le titre de Judaïen n'ont plus de valeur, alors il pourrait se dire, mais du coup, que fait Hachem en fait? Comment Hachem pourrait être vrai, entre guillemets, en acceptant que la circoncision soit rendue vaine, ou que le titre de Judaïen soit vain? Et du coup, il pourrait se dire, à quoi sert finalement de mettre sa foi en Hachem? Et du coup, Paul dit, puisse-t-il ne pas se devenir, d'accord, que ça soit vain que de mettre sa foi en Hachem? Et il dit, se devienne cependant le Dieu vrai, donc qu'on ne se dise pas que qu'Hachem fasse n'importe quoi ou qu'il soit menteur ou quoi, non, qu'on garde cette vérité que Hachem est vrai, tout cependant être humain, menteur. D'accord? Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit se devienne cependant le Dieu vrai, pas est le Dieu vrai. Donc, comment on peut comprendre se devienne? Eh bien, comme répondant à cette personne X qui se dit que mettre sa foi en Hachem, ce serait vain, du fait qu'il y ait des Judaïens de nom, c'est-à-dire des Judaïens qui ne croient pas. Enfin, des Judaïens, entre guillemets, qui ne croient pas. Pour cette personne X-là, qui a pu se dire une telle chose, eh bien, Paul dit que Dieu devienne vrai. En gros, que Dieu devienne, que Hachem devienne vrai pour cette personne, que pour cette personne, Hachem soit vrai, et que cette personne, aux yeux de cette personne, que tout humain devienne menteur. C'est-à-dire que cette personne considère, grosso modo, tout humain comme menteur. Parce que si cette personne, elle fait ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que la personne qui va... Alors déjà, ça signifie, ça sous-entend que il faudrait pas de soi-même se dire Judaïen. D'accord? Parce que ça voudrait dire, finalement, d'une certaine manière... Enfin, on pourrait se demander si on ment ou pas, parce que être menteur, ça ne signifie pas mentir tout le temps. Mais ça signifie plutôt mentir de temps en temps, ou souvent, ou avoir l'habitude de mentir, ou mentir de manière générale, en général. Mais ça ne signifie pas mentir tout le temps. Donc si quelqu'un arrive et dit il est Judaïen, on pourrait se poser la question de est-ce que vraiment il dit la vérité ou pas. Mais bref. Du coup, si cette personne X considère tout humain menteur, si aux yeux de cette personne X, tout humain devient menteur, alors... il pourra vraiment mettre un doute sur la personne qui arrive et qui dit « Moi, je suis judaïen. » Et c'est ce que Paul dit à cette personne, finalement. Elle dit « Ne crois pas vrai tout le monde, mais au contraire, considère plutôt les humains comme menteurs. » Et comme ça, tu pourras mieux comprendre justement qu'il y ait des faux judaïens. Et par rapport à ça, par opposition à l'humain menteur, considère Dieu comme étant vrai. C'est-à-dire comme étant digne de foi. Et juste après, Paul va citer une écriture en disant « Selon comme il a été graphé, de telle manière que le cachant que tu as été justifié dans tes discours et que tu es vaincu dans le fait d'être toi jugé. » Ce qui est intéressant avec cette écriture, c'est qu'il ne paraphrase pas cette écriture pour justifier ce qu'il a pu dire. Quand il dit que Dieu devienne vrai et tout humain menteur, n'est-ce pas? Mais plutôt, il va utiliser cette écriture comme un objectif, n'est-ce pas? Oui, comme un objectif, je dirais. C'est-à-dire, considère tous les êtres humains menteurs, mais Dieu vrai. Et là, il dit, afin que tu aies été justifié dans tes discours et que tu aies vaincu dans le fait d'être toi jugé. Parce qu'effectivement, si on considère tout être humain menteur comme y compris soi-même, alors, eh bien, on ne pourra pas être condamné, finalement, d'une certaine manière, je trouve, comme étant menteur, n'est-ce pas? Bien qu'en réalité, si, mais pas dans le sens de on a trompé les gens en leur faisant penser qu'on disait la vérité. C'est-à-dire que par défaut, les gens pourraient nous donner une image entre guillemets parfaite, sans défaut, une image de personne qui ne ment pas, qui n'est pas menteur. Mais justement, en considérant tout être humain comme menteur, on brise cette image-là. En tout cas, quand on manifeste qu'on est menteur, quand on fait savoir qu'on est menteur, on brise cette image-là que certaines personnes pourraient nous donner par défaut de personnes qui ne mentent pas. Et du coup, en ayant brisé cette image-là, eh bien, on ne peut plus la rebriser, grosso modo, après. C'est-à-dire que les gens savent qu'on est menteur. Et du coup, ils sont censés s'attendre à ce qu'à un moment donné, un jour, on mente. Et en ça, en ce qu'ils sont censés s'attendre à ça, eh bien, on est, entre guillemets, soi-même justifié par rapport à nos discours. On est protégé, si je puis dire. Parce qu'on aura averti, on aura dit la vérité à propos de nos discours. Alors que si on ne dit pas qu'on est menteur et qu'on laisse entendre, laisse penser qu'on est vrai, qu'on ne dit pas de mensonges, le jour où on ment, on sera condamné et non pas justifié. Donc le fait de dire, de se considérer comme menteur, ça nous permet de ne pas avoir cette condamnation, que cette personne dont on vient de parler qui aurait laissé penser aux autres qu'il est vrai et qui se serait fait, du coup, n'est-ce pas, fait condamner plus tard comme menteur, lui qui serait un fils d'Adam, n'est-ce pas, un humain pécheur. Donc, cette citation de l'écriture, elle va rejoindre le tout être humain parce que là. Paul, il aurait pu dire voilà que Dieu devienne vrai pour la personne X, d'accord? Que Dieu soit reconnu pour vrai pour elle, même pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Et il aurait pu dire cependant les Judéens de nom menteurs, les faux Judéens menteurs. Mais non, il dit pas les faux Judéens menteurs. Non, il dit tout être humain. Du coup, on pourrait dire, mais comment est-ce qu'il dit tout être humain? Parce que tout être humain, ça signifie finalement même la personne X. Même elle. Et il peut dire justement même la personne X à travers justement cette parole, cette citation qui donne juste après. Et cette citation qui donne juste après accentue ou parle justement de soi-même, en fait, de la personne X qui est censée considérer tous les humains comme étant menteurs. Donc cette citation, elle vient expliquer le tout être humain menteur plutôt que. Tout faux judaïen menteur ou tout judaïen de non seulement menteur. Parce que Paul n'allait pas non plus dire tout judaïen de non seulement menteur et toi-même. Ça aurait fait un peu étrange, n'est-ce pas? Et puis ça s'oppose mieux de dire Dieu vrai et tous les êtres humains menteurs, n'est-ce pas? Et du coup, certains pourraient peut-être dire, ouais, mais alors qu'en est-il des vrais judaïens? Ceux qui sont vraiment judaïens, qui gardent la Torah, qui sont circoncis de cœur, etc. Est-ce que cette personne X, elle devrait aussi le considérer comme étant menteur? Ben, en tout cas, cette personne X, je pense que oui, elle devrait le considérer comme menteur, parce que elle est pécheresse, et que ce serait se tromper que de penser que ce judaïen, ce vrai judaïen, soit parfait, en fait, parce qu'il a une chair pécheresse, et que en conséquence, ça peut lui arriver de pécher. Donc oui, il devrait le considérer comme menteur. Est-ce que ça veut dire que si ce vrai Judéen vient à lui, à cette personne X, et lui dit il est Judéen, que forcément il dit un mensonge? Non, ça ne veut pas dire ça. Comme je l'ai dit juste avant, être menteur, ça ne signifie pas mentir à chaque fois. Il n'y a personne dans la société, à ma connaissance, qui ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. En général, on dit de quelqu'un qu'il est menteur, ça veut dire qu'il ment de temps en temps, grosso modo. N'est-ce pas? Donc, c'est pas parce que ce vrai Judéen vient vers la personne X et lui dit qu'il est Judéen que forcément il ment. C'est pas ce que Paul est en train de dire là. Mais en revanche, ça nous fait comprendre que le Judéen, on va pouvoir émettre un doute sur celui qui dit qu'il est Judéen, et on va pouvoir évincer ce doute ou alors le confirmer, selon quoi? Selon la définition du Judéen, c'est-à-dire selon les œuvres que la personne fera, c'est-à-dire est-ce qu'elle gardera la Torah ou pas? Plus précisément, pour reprendre ce que dit la fin du chapitre 2, les actes de justification de la loi. Et ça rejoint ce que le fils d'Hachem dit, on juge un arbre à son fruit. Donc, ou jugez-le à leurs fruits. Jugez-les à leurs fruits. Donc, concernant les vrais Yudaïens, eh bien, cette personne X, elle aura tout simplement à voir si elle dit la vérité ou pas, selon la vérité, c'est-à-dire selon si elle garde la Torah ou pas. Voilà. Donc finalement, Paul, ici, réoriente celui qui pensait que mettre sa foi en Hachem, c'était quelque chose de vain à cause de l'incroyance des Judaïens de non seulement, donc personne que j'ai appelée personne X. Donc Paul a redirigé cette personne-là vers justement la réalité que Dieu est vrai et vers le fait que cette personne est à considérer, à ses yeux, si je puis dire, tout humain menteur. Autrement dit, Paul essaye de remettre les choses à leur place. Hachem est saint, l'humain est pécheur. Donc, grosso modo, te laisse pas avoir ou abattre ou séduire par des menteurs, par des faux. Grosso modo. Et de manière générale, Paul peut dire que tout être humain est menteur, dans le sens que tout être humain est pécheur, ou en tout cas fils de pécheur, fils de menteur, n'est-ce pas? Bien qu'en réalité, le péché des pères n'est pas à imputer, n'est-ce pas, sur les fils. Donc, bien qu'il y ait des conséquences au péché, hein, je ne parle pas des conséquences au péché, je parle plutôt des accusations. Du sentiment de culpabilité, n'est-ce pas? Mais le fait est que finalement tout être humain est pécheur et d'une certaine manière menteur aussi, finalement. Ça rejoint cela. Je veux dire, qui n'a jamais menti sur la face de la terre? Et en vérité, même s'il n'a jamais menti, on pourrait, je pense, dire que la personne a déjà menti, selon la parole de Jacques qui dit que celui qui brise une parole de la Torah brise toute la Torah, n'est-ce pas, grosso modo. Puis de toute façon, Paul va pouvoir développer cet aspect de tout être humain menteur, enfin cette idée d'une certaine manière, n'est-ce pas, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, n'est-ce pas. Donc voilà un peu.